RCF, les grands entretiens d'Éric Rouillet.
Maître Ronald Gadeau, bonjour.
Bonjour, monsieur Rouillet.
Vous êtes le bienvenu sur RCF pour nos grands entretiens. Vous êtes une haute personnalité de Grenoble, avocat pénaliste, renommé. Pourriez-vous, très brièvement, avant que nous démarrions notre émission, nous préciser en quoi consiste la discipline d'avocat pénaliste et quelles en sont les spécificités ?
Brièvement, c'est difficile, mais pour le dire simplement, c'est un professionnel qui a pour mission d'assurer la défense des gens dont on dit qu'ils sont accusés souvent du pire. C'est-à-dire, si je le dis rapidement et prosaïquement, les voleurs, des personnes qui sont accusées de viol, des meurtriers, des assassins, et qui sont attrés devant des juridictions comme notamment la cour d'assises. Voilà brièvement ce qu'est le métier d'avocat pénaliste. Ça, c'est la définition rapide. Et moi, je dirais que celui qui défend, c'est celui qui cherche la part d'humanité de l'homme qui est accusé du pire. Et c'est ça la difficulté de notre métier.
Je me rends compte que demander à un avocat d'être bref est tout de même quelque chose d'insensé. Alors, je vais partir sur autre chose, si vous le permettez, parce que peu de personnes savent que vous êtes un homme de culture. Vous êtes notamment passionné de théâtre, d'opéra, alors moi je le sais, et à travers l'opéra et le théâtre, vous avez une attirance pour la mise en scène qui permet non seulement d'entendre la musique, mais de la voir. Que vous apporte cette dimension visuelle de la musique, puisque vous semblez écouter la musique avec les yeux?
Oui, écouter la musique avec les yeux, mais d'abord avec les oreilles. Ce que j'aime dans l'opéra et le théâtre, c'est le fait de mettre en valeur justement les sons. Et quelquefois, les yeux sont insuffisants pour prendre connaissance des voix. Et par exemple, le théâtre, c'est d'abord de la littérature. Et on peut lire le théâtre, mais lorsqu'on a un interprète, pour reprendre l'expression de M. Magnard, qui insiste beaucoup sur le rôle, Magnard, philosophe, grand prix de l'Académie française, Magnard, il insiste beaucoup sur le rôle de l'interprète. Eh bien, en matière de mise en scène, c'est précisément mettre en valeur les mots, mettre en valeur les sons. Et nous, avocats pénalistes, on a affaire déjà à une mise en scène qui nous est opposée. C'est celle de la procédure pénale. Et nous, avocats pénalistes, on a pour mission, pour objectif, pour ambition de nous substituer à la mise en scène qui nous est imposée pour essayer d'imposer la nôtre. C'est un autre défi. Alors, je ne dis pas que je vais au théâtre et que je vais à l'opéra dans le but de m'en servir sur le plan professionnel, mais je pense que ça alimente, ça nourrit ma profession.
En fait, vous pouvez quelque part vous nourrir de ces mises en scène. Et est-ce que dans un opéra, il y a une partition? Mais vous, votre dossier serait également une sorte de partition. Et à partir de là, il faut composer, malgré tout, une mise en scène pour rendre accessible au tribunal ce que vous avez à dire.
Je pense qu'il y a une partition qui est celle du dossier qui nous est imposée. C'est la partition de l'institution judiciaire, du juge d'instruction, du procureur. Et nous, nous sommes là pour interpréter cette partition dans le sens de la défense, dans le sens de la défense de la personne dont on a la charge. C'est une mise en scène contre une mise en scène.
Alors, vous, quand vous rentrez au tribunal, vous ressemblez plus, quelque part, dans vos affinités, au théâtre ou à l'opéra ?
Ben c'est un peu les deux. Hein. Le théâtre, beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas de musique à la cour d'assises. Par contre, c'est objectivement un théâtre, mais un théâtre où on entend des voix. Et je pense qu'au théâtre et à l'opéra, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la prosodie. la prosodie, le rythme avec lequel on s'exprime. Et il faut savoir, non pas imposer, mais avoir une prosodie propre. Et je pense que l'opéra est utile également, même dans le cadre d'une plaidoirie. On ne chante pas, même si on nous appelle des ténors. Et donc, je pense qu'il y a, dans l'esprit des uns et des autres, l'opéra est là, même à la cour d'assises, puisque nous sommes supposés des gens qui chantent.
Je voudrais enchaîner alors sur autre chose. Je lis dans le livre 12 des lois de Platon, les préposés au service public doivent refuser tout présent, quelle qu'en soit la forme, sinon ils sont condamnés à mort pour corruption de fonctionnaires. Un peu après, dans ce livre 12, Platon ajoute « Ceux qui sont au service de la patrie doivent la servir sans recevoir de présent. Celui qui aura violé cette loi sera convaincu en justice et sera tout simplement mis à mort. » J'aimerais vous poser une question. Que se passerait-il aujourd'hui si nous devions activer cette loi anticorruption de Platon ?
Alors là, la corruption de l'extérieur, on pourrait penser que notre pays en est exempt. Il s'avère qu'on a entendu des chiffres récemment selon lesquels la France serait malheureusement bien placée sur la liste des pays où des fonctionnaires peuvent être corrompus. On a eu quelques exemples récemment avec des policiers très élevés dans la hiérarchie qui ont été condamnés pour corruption. Je pense que fort heureusement, la loi a évolué et que la peine de mort en 1981 a été abrogée et que le policier condamné n'a pas été condamné à cette peine capitale, ce dont nous pouvons nous réjouir. Je pense que quand même la corruption est à la marge dans notre société, même si la vox populi peut penser le contraire.
Mais pourquoi Platon plaçait la dangerosité de la corruption au-dessus du crime ?
Il le passe au-dessus du crime dans la mesure où on ne peut plus juger du crime si les personnes qui sont censées juger justement les infractions sont corrompues. Donc il n'y a plus de justice. Donc il insiste et il met au-dessus du crime la corruption parce qu'elle interdit tout fonctionnement de la justice.
Alors donc, je reviens à vous embêter un peu. Platon se contredit quand il dit « il est préférable d'avoir de grands hommes que de grandes lois ».
Oui, mais c'est un peu dangereux comme appréciation parce que si on fonde la qualité de la justice sur les grands hommes, on n'a pas de garantie, alors que les grandes lois, c'est la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel, ce sont des hommes, mais qui jugent en fonction des principes fondateurs de notre République. C'est pour ça que, de mon point de vue, je préfère les grandes lois aux grands hommes. Les grandes lois, elles garantissent la qualité des hommes.
Nous allons changer de sujet. Je crois que vous avez été sportif de haut niveau dans votre adolescence, vous avez joué au handball.
Oui, c'est vrai.
Il devait vous arriver, pour des raisons inexplicables, de louper un match et d'autres fois de signer des prestations d'excellence. Quel souvenir conservez-vous de cette période d'une jeunesse où, sur un terrain, les règles, cette fois-ci, étaient les mêmes pour tout le monde ?
Je pense que l'activité sportive, faite à un certain niveau, permet d'assumer sa profession telle que celle d'avocat. Elles alimentent, elles nourrissent. Je pense que toutes les activités nourrissent les unes les autres. Et là, le fait d'être handballeur, j'ai joué en National 1, National 2, à l'époque où le handball n'avait pas le même succès qu'il a aujourd'hui. Mais j'ai une anecdote à ce propos, assez amusante de mon point de vue. À l'occasion de mon premier procès d'assises, les jurés sont tirés au hasard, nous le savons. Et à l'occasion de ce premier procès, il y a un juré qui s'avère être mon entraîneur. Et cet entraîneur est choisi. Je ne vais pas le récuser. Et il va siéger parmi les jurés qui seront ceux qui jugeront mon premier client accusé de meurtre. Et sans dévoiler ce qui s'était passé pendant le délibéré, cet ex-entraîneur m'a dit « Tu sais, les qualités que tu avais sur le terrain, c'est celles que tu as en tant que professionnel du droit. » Et il m'a expliqué un petit peu, c'est-à-dire que le fait de regarder tout ce qui se passe, d'être capable de réagir, c'est des qualités sportives qui sont utiles également à un professionnel du droit tel que l'avocat pénaliste.
Et ça, vous l'avez gardé en souvenir ?
Je l'ai gardé en souvenir et j'essaye de vérifier régulièrement si je suis toujours aussi sportif que je l'étais à l'époque, ce qui n'est pas toujours le cas compte tenu de l'expérience que j'ai aujourd'hui.
Lors d'un procès devant la cour d'assises, votre souci principal est-il d'argumenter afin de persuader les jurés ou faut-il surtout les émouvoir ? Dans ce cas, votre premier souci serait-il de rentrer en concordance avec ces jurés afin d'élaborer une réceptivité de connivence, quitte à vous désaxer du centre de gravité du dossier ? Autrement dit, vous arrive-t-il de vous éloigner de vous-même pour vous rapprocher des autres à ce moment précis ?
C'est une très bonne question. Et je pense que il faut toujours être soi-même et pas sacrifier ce qu'on est, ne serait-ce que pour obtenir un résultat. Et encore une fois, une autre anecdote d'une personne qui assiste à un des procès auxquels je participe, et il me croise par la suite, et il vient me dire que ce qui l'a ému, c'était précisément ma capacité à insister sur la raison, mais ne pas oublier le cœur. Et lorsqu'on est devant des jurés, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas essayer de se rapprocher d'eux de manière artificielle. Il faut leur plaider le dossier sur le plan de la raison, car quand bien même seraient-ils des gens du commun, la référence, elle est commune à tous. La raison. Mais il ne faut pas oublier également que chacun d'entre eux a un cœur. Et il faut faire un compromis entre la raison et le cœur.
Je voudrais, à ce moment de notre émission, que nous écoutions un passage de la partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Robert Lévin. Et ensuite, c'est vous qui m'expliquerez pourquoi j'ai fait ce choix. Maître Ronald Gallo, les partitas, Jean-Sébastien Bach, Robert Lévin, je vous écoute.
Bien, si, d'abord, c'est la musique. Deuxièmement, c'est Bach. Et troisièmement, c'est l'interprète, Robert Lévin. Les trois réunis, c'est un réenchantement du monde. C'est-à-dire que je suis devant vous, je vois les voitures, je vois le monde. Et en même temps, je l'oublie grâce à cette parenthèse musicale. Et c'est grâce à ces artistes que sont Bach et Robert Levin qu'on peut réenchanter le monde. Vous savez, Nietzsche disait que la musique est une initiation au bonheur, une initiation à la vie et même une initiation à la philosophie. Lui disait initiation au bonheur, le simple son d'une cornemuse, c'est un bonheur. Je ne suis pas sûr de partager son point de vue, mais c'est l'idée qui compte. Et je pense que vous m'avez offert un moment court de bonheur, et je vous en remercie.
J'ai une question qui va nous éloigner un peu de la magie. Vous est-il arrivé de plaider avec une sorte de rayonnement supérieur, comme une sorte d'apothéose, comme si c'était subitement devenu une évidence pour vous, une sorte de positionnement extatique, avec une aspiration qui élevait une plaidoirie au-dessus des débats et de perdre le procès?
Oui, malheureusement, il reste pas trop en mémoire, ou heureusement, mais c'est vrai qu'on a l'impression quelquefois d'être ailleurs, tout en étant dans le dossier, avec les jurés, avec les gens, et puis de ne pas être satisfait du résultat. Ça peut arriver, mais c'est rare, parce que lorsqu'on est dans cet état-là, c'est une forme, comme vous le dites, extatique, généralement on rencontre les gens. Et on ne peut être dans cette situation que si on a l'écoute des gens, si c'est une rencontre. Moi, je crois beaucoup à cette idée de rencontre entre les personnes, et le procès d'assises, c'est un moment de rencontre entre un individu qui est accusé, un avocat et des jurés. Et si cette alchimie est réalisée, le plus souvent, eh bien, on le dit bêtement, ça marche. Je pense qu'il faut dire aux gens qu'ils sont généreux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte un peu... Dans l'air du temps, c'est celui de la haine, de la répression. Et on a oublié l'évêque Madeleine. Madeleine, le curé, celui qui va dire à Jean Valjean: pourquoi vous avez oublié les chandeliers également que je vous ai offerts? Bien sûr que l'évêque, c'est Victor Hugo. Et je pense que quand on leur parle, aux jurés, de Jean Valjean, de Victor Hugo et de l'évêque Madeleine, je pense qu'ils continuent toujours à être émus.
Parce que votre réalité d'un dossier, c'est une réalité parcellaire. C'est un échantillonnage segmenté qui vous concerne au départ. Votre rôle est d'en extraire un tableau interprétatif qui soit crédible et permette d'en diffuser une globalité de perception. Ceci s'anticipe, se construit durant le procès en fonction de son évolution. Ce dossier de départ, à travers vous, est-ce qu'il intègre déjà la partie adverse et les arguments? Est-ce que vous êtes seul avec votre dossier initiatiquement, ou est-ce que déjà vous le construisez avec la possibilité du retour de l'autre?
Ah, il faut obligatoirement intégrer le procès, quel qu'il soit, mais le procès d'assises en particulier, c'est, comme je le disais, c'est une rencontre. Donc c'est une rencontre aussi avec la victime, avec la partie civile, avec le procureur. Il y a une relation. Et s'il n'y a pas de relation, si on est seul, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Or, l'objectif principal, c'est d'être entendu. Et si on ne fait pas cet effort vers l'autre, il y a aucune chance, parce que derrière, les jurés qui sont seuls pendant des heures, ils voient, ils entendent qu'on a oublié la partie importante qu'est la victime. Donc, c'est obligé d'intégrer cette partie-là.
Nous allons un petit peu nous désaxer de ce moment un peu grave, parce que je rappelle quand même que de vos plaidoiries, des décisions sont prises de vos clients qui peuvent prendre 10, 30 ans ou perpète quand même. Hein. On n'est pas dans les divorces et les faits divers. Je voudrais que nous écoutions une interview que vous avez accordée il y a quelques années. Et je suis sûr que vous ne l'avez jamais réécoutée, parce qu'elle n'a jamais été diffusée, et c'est la première fois qu'elle va être rendue publique, et c'est à ce moment précis, et je suis heureux de vous l'offrir.
Le vin présente cette qualité extraordinaire de faire la relation entre le corps et l'esprit, l'esprit et le corps. C'est pour ça qu'on l'aime autant, surtout quand il est aussi extraordinaire que le Montrachet 1998. Quand on dit que le vin parle au corps et à l'esprit, comment qualifier le vin par des mots? Et là, on retombe un peu sur ce que Magnard, le philosophe, disait, il faut apprendre le goût ou faut-il le connaître avant même de l'avoir testé? Moi, personnellement, le Montrachet 98, je ne connaissais pas. Et les mots qui viennent à l'esprit, ils sont banals. Ils sont banals, malheureusement.
Obligatoirement,
alors qu'on a une sensation qui est extraordinaire. Et c'est ça qui est un peu frustrant, de ne pas être à la hauteur de ce vin, de ce travail, de cette nature. C'est ça qui est surprenant et en même temps énigmatique. Et c'est toujours le mystère qui suscite l'attrait, le goût et même, je dirais, l'hypnose.
Maître Ronald Gallo, qu'est-ce donc que cette confidence au sujet des vins du philosophe?
Je dirais qu'il y a un mot qui sort de ses propos, c'est le mot mystère. Et je pense que le métier que je fais, il est aussi déterminé par la volonté de découvrir le mystère. Chaque homme est un mystère, chaque vin, non, mais les grands vins sont des mystères, parce que on ne sait pas comment ils parviennent à susciter cet état extatique, pour reprendre cette expression, qui sera le leitmotiv de notre entretien. Et je pense que quand je défends quelqu'un, le but, l'objectif, la mission, c'est de découvrir ce minerai, justement, cette rareté, cette pierre précieuse. C'est un peu comme le chercheur d'or. Eh bien, le Montrachet 98, c'est de l'or. Et on ne sait pas comment il a été fabriqué. C'est ça qui est magique. Et il ne faut pas toujours réussir à découvrir le mystère. Il faut toujours aussi, quelquefois, le préserver.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que durant toute cette émission, vous nous parlez de la puissance du mot. Et là, vous justifiez le mystère par l'absence du mot, en disant qu'on ne peut pas le définir.
Personnellement, peut-être n'ai-je pas l'aptitude à définir, à décrire les raisons pour lesquelles je suis capté, séduit par ce vin. Alors peut-être que je me cache et que je me dis que n'ayant pas les moyens de le décrire, peut-être faut-il mieux rester humble devant ce mystère et cette grandeur qu'est le Montrachet 98.
Voilà. Puisque nous sommes dans l'humilité, vous savez que Jean-Yves Bizot a été notre invité et que le professeur Magnard, par rapport à notre amitié, avait fait un portrait. Et je lui ai demandé de faire un portrait de vous aussi. Et voici ce que me dit le professeur Magnard à votre sujet. La plaidoirie de maître Ronald Gallo est le théâtre d'une répétition créatrice qui exprime le caractère indéfectible d'un engagement. Il compose une épaisseur du temps afin de solutionner à terme différé un rationalisme qui doit s'astreindre à déglutir des distorsions et des contradictions. L'origine de sa plaidoirie est un commencement constamment oblitéré dans l'instant, comme une anticipation qui veut s'installer dans le devenir d'une décision. Et il termine avec cette phrase « Son niveau de signification vient alors en surimpression de l'ambiguïté du phénomène humain. »
Je ne saurais qualifier les commentaires de Monsieur Magnard, mais
je me permets de vous répéter la dernière phrase.
Oui.
Le niveau de signification de maître Ronald Gallo vient alors en surimpression de l'ambiguïté du phénomène humain.
Ouais. Oui, le phénomène humain, surtout dans le cadre où je travaille, c'est-à-dire les personnes qui sont accusées souvent du pire, la moindre des choses, c'est de dire que leur comportement est ambigu sur le plan humain Et c'est la raison pour laquelle il faut essayer de dépasser, de transcender cette ambiguïté pour revenir à trouver le minerai dont je parlais précédemment. C'est-à-dire, comme l'évêque Madeleine, faire confiance en l'homme pour voir dans celui-ci autre chose que le délit, le crime qu'il a commis. Parce qu'il fait partie néanmoins de notre humanité. Il fait partie du groupe auquel nous appartenons, même s'il en est provisoirement exclu. Et c'est ça l'ambiguïté de l'homme, essayer de la transcender, de la dépasser, d'aller au-delà. Et je pense que seuls les philosophes, eux, peuvent comprendre cette ambiguïté. Et je pense que un homme comme M. Magnard, qui est un monument vivant de notre patrimoine national, peut atteindre à cette ambiguïté. Nous, les avocats, on a une ambition modeste quand même, hein, il ne faut pas exagérer. Ce qui compte, c'est quand même essayer d'éviter à l'homme une sanction injuste.
Je voudrais finir notre émission avec une question un petit peu superficielle, si vous permettez. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, d'une communication qui est quand même dépossédée de la temporalité réflexive, me semble-t-il, je me permets de dire, avec un effondrement général du niveau culturel de la société, avez-vous dû envisager, vous, autrement, la structure même de vos plaidoiries, afin d'éviter une obsolescence de vos compétences ?
Pour le moment, les réseaux sociaux et leurs conséquences n'ont pas pénétré l'enceinte judiciaire. J'ai vu, dans un procès retentissant à Grenoble, une avocate qui, pendant l'audience, communiquait sur les réseaux sociaux à tel point que le président a été informé de cette attitude et a dû sermonner l'avocate en question. Jusqu'à présent, c'est le seul exemple que j'ai à l'esprit d'une personne qui communique sur les réseaux sociaux en temps direct pendant le procès. Mais en dehors de cet exemple, pour le moment, nous sommes préservés.
Maître Ronald Gallo, nous arrivons déjà au terme de notre émission qui est passée quand même très vite. Donc, je me souviendrai de cette émission par rapport à vous. Donc, Platon, Socrate, Bach,
Nietzsche,
Robert Lévy, Nietzsche, Victor Hugo.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié.
Et le professeur Magnard. Et donc, nous allons nous quitter avec le Capriccio de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach, interprété par Robert Lévy. Merci, Maître Ronald Gallo, d'être venu nous voir pour notre grand entretien. Merci.